Le 25 juillet, c'était la messe d'envoi des JMJ en l'église Saint-Amand de Bayonne, présidée par Monseigneur Haillé. Bonjour Monseigneur Haillé.
Bonjour.
Nous sommes le 10 août à la fête de Saint-Laurent. Nous avons invité dans nos studios pour faire un premier bilan, entre guillemets, de ces journées mondiales de la jeunesse au Portugal. Il a fait chaud au Portugal ?
Oui, il a fait chaud surtout les deux derniers jours pour le sommet de ces journées mondiales de la jeunesse avec le Saint-Père, donc le samedi, où les jeunes ont beaucoup marché pour rejoindre le Campo da Graça, le champ de la grâce, ou le camp de la grâce, et puis le dimanche, pour la messe d'envoi. Mais autrement, la température était à la fois chaude dans la journée, fraîche la nuit, donc c'était très très agréable.
Vous avez avec un magnifique chapeau, vous aviez troqué un beau chapeau contre la mitre. Alors, quand vous étiez avisé où ?
J'avais rapporté un Panama qui m'avait été offert lors des dernières journées mondiales de jeunesse à Panama, donc je voulais faire le lien entre ces deux journées mondiales de la jeunesse pour porter ce chapeau qui m'a protégé du soleil.
Alors ces JMJ du diocèse de Bayonne, Escar et Oloron, elles ont été scindées en trois parties. Il y avait l'accueil dans le diocèse de Viseu, il y avait ensuite le temps fort avec les jeunes du monde entier et le pape François du 1er au 6 août. Et puis ensuite, il y avait le retour en relecture sur Salamanque et Burgos. Parlons pour commencer de l'accueil du diocèse de Viseu. Je crois que c'était un très bel accueil.
Alors ça nous a permis, en tout cas, ces JMJ, en particulier pour cette première semaine accueillie dans ce diocèse de Viseu, de découvrir un peuple, le peuple portugais, avec lequel nous avons évidemment beaucoup de liens par l'immigration des années 50-60, un peuple extrêmement accueillant. Voilà, nous avons reçu partout le témoignage d'un accueil profondément chrétien, on peut dire, et très chaleureux et toujours disponible, toujours de service auprès de nos jeunes, pour les faire aller ici ou là. Enfin, non, ça a été vraiment une très belle expérience.
Vous avez même béni à la fin donc de ce séjour à Viseu, dans ce diocèse, vous avez béni, alors moi je dirais du carrelage, mais ce n'est pas du carrelage, c'est les faïences portugaises.
Et on peut dire un mémorial. Il y a deux endroits qui avaient reçu donc les jeunes et qui nous ont reçus aussi tous ensemble, où les curés ont voulu garder mémoire du passage de nos jeunes. Et donc c'était des petits monuments qu'il a fallu bénir en effet avec quelques paroissiens qui étaient très heureux de cet accueil.
Ensuite, c'était donc le temps fort de Lisbonne. Quel a été votre ressenti
à... Lisbonne, c'est pour moi. Moi, j'ai été très présent aux jeunes pendant la première semaine, évidemment. J'allais ici ou là avec eux et on a fait beaucoup de choses ensemble. Moi, j'ai trouvé ça très important. La deuxième semaine, je les ai rejoints un peu plus difficilement puisque à ce moment-là, les évêques sont un petit peu ensemble. J'étais aussi évêque catéchiste, donc j'ai dû faire une première catéchèse qu'on n'a pas appelée catéchèse cette année, mais Rise Up, qui rejoignait le thème de cette journée mondiale de jeunesse. Marie se leva, lève-toi. Marie se leva et partit en hâte, donc dans l'évangile de la Visitation. Et donc le premier Rise Up sur l'écologie intégrale, j'ai eu la joie d'avoir mon diocèse qui était présent avec au milieu de 1500 jeunes français. Et puis le deuxième Rise Up, j'étais en binôme avec monsieur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise. Et là, je donnais l'homélie tandis que lui donnait la catéchèse. Et le lendemain, j'ai pu donner aussi une catéchèse à un autre groupe. Vous voyez, donc j'étais un peu moins présent, mais je les ai rejoints ici ou là, en particulier le soir du dimanche, là où un quart malheureusement a été empêché de partir à Salamanque pour cause de maladie ou de malaise du chauffeur. Et donc j'ai pu passer la soirée avec eux et le lundi matin célébrer la messe avec eux aussi.
Alors le mardi matin, il y a eu ce fameux temps des Français, ce rassemblement des Français auquel vous avez participé. On vous a vu d'ailleurs prononcer une prière à côté de vos frères évêques à la fin de ce temps des Français. Alors qu'est-ce que vous aimeriez nous dire sur ce rassemblement? Comment vous l'avez vécu?
Alors ça, c'était quand même un rassemblement très inédit puisque c'est la première fois que lors de JMJ, on organise un temps spécifique pour les Français d'une telle ampleur puisque, comme vous le savez, il y avait 45 000 Français présents au JMJ, surtout pour les deux derniers jours. À ce moment-là, il y avait à peu près 40 000 jeunes qui étaient rassemblés. C'est un temps qui a été très bien préparé. Peut-être que le programme n'a pas été assez annoncé, puisque comme il a beaucoup traîné en longueur du fait d'un pré-show qui avait été organisé pour permettre l'acheminement des jeunes sur ce terrain, mais qui sont arrivés finalement assez vite, beaucoup sont partis au moment où C'était un peu le sommet de ce temps, avec un temps d'adoration eucharistique, une homélie prononcée par le cardinal Aveline, qui était très belle, sur l'évangile qui était un peu la trame de ce temps des Français, la première pêche miraculeuse racontée par saint Luc au chapitre 5e de son évangile, et un temps de bénédiction. Alors on a demandé aux jeunes de lever les mains pour bénir les évêques, qui étaient tous rassemblés sur le podium à ce moment-là, et les évêques ont prononcé des bénédictions, dont j'ai fait partie évidemment, du fait que je fais partie de la commission épiscopale pour la pastorale des enfants et des jeunes, et en invitant les jeunes à se lever, lever pour aller servir les pauvres, lever pour annoncer l'évangile, etc.
Le maître mot, c'était aussi disciple missionnaire. Les jeunes étaient appelés à vraiment devenir des disciples missionnaires.
Tout à fait, hein, c'est le thème donc tiré de l'évangile de la Visitation. Marie se leva et partit en hâte pour sans doute se mettre au service de sa vieille cousine dont elle apprenait par l'ange Gabriel qu'elle était elle aussi enceinte dans sa vieillesse, elle qu'on appelait la femme stérile, mais surtout elle était pressée par la charité du Christ qui veut sauver l'humanité, et elle était pressée d'apporter cette bonne nouvelle à travers Jésus qu'elle portait déjà dans son sein virginal à Jean-Baptiste qui en était sanctifié dans le sein de sa mère Élisabeth.
Puis il y a eu ces célébrations avec un million et demi de jeunes.
Oui.
Alors comment on vit ces célébrations? Est-ce que certains disent que c'est trop, qu'il y a trop de monde, qu'il est difficile de prier? Comment vous l'avez vécu?
Moi j'ai vécu les célébrations, j'ai trouvé qu'elles étaient belles en elles-mêmes, hein, que ce soit la messe finale, la veillée du soir, avec beaucoup de talent sur le plan musical, sur le plan chorégraphique, hein, de la part des Portugais, ça je pense qu'on était assez unanime là-dessus. Je pense que malheureusement, les temps de préparation, que ce soit de la veillée ou de la messe du dimanche matin, comme les temps qui ont suivi, ont été pas suffisamment bien gérés sur le plan de la préparation intérieure à un tel événement. C'est vrai qu'il y avait un peu de techno, de manière un peu excessive, qui a, je crois, indisposé pas mal de jeunes, et en particulier les jeunes français, hein, qui ont trouvé qu'il y avait un peu trop de décibels et que c'était difficile d'entrer vraiment dans la célébration. Après, le pape était sans doute fatigué, et on voit bien un peu handicapé maintenant, mais il est paru très à l'aise, très heureux au milieu de cette jeunesse. Il a parlé peu, mais ce qu'il a dit était assez fort, surtout le dimanche, hein, quand il leur a donné ces trois mots qui sont tout un programme, je pense, pour eux, hein. Briller, hein, parce que vous êtes la lumière du monde, comme dit Jésus dans l'Évangile. Écouter, hein, soyez vraiment à l'écoute de la parole de Dieu, pour écouter aussi tous ceux qui vous entourent et qui ont tant d'attentes, tant de questions. Et n'ayez pas peur, hein, reprenant un peu le maître mot de Jean-Paul II qui a inauguré cette ère où n'ayez pas peur de vous engager, n'ayez pas peur de vous lever pour aller annoncer l'évangile à vos frères et pour vous mettre au service de vos frères, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisés.
Il y a eu aussi cette vidéo projetée avec donc un récapitulatif de toutes les JMJ où on voyait...
Au début de la veillée. Ouais, c'était assez beau ça aussi, ouais, de voir la continuité. Hein, c'est vrai qu'il y a... Jean-Paul II avait considéré ces JMJ comme un pèlerinage des jeunes à travers l'histoire. Hein, et donc c'était beau en effet de raccrocher ces JMJ 2023 avec le pape François aux JMJ qui ont précédé. Hein, et le pape François, on est déjà à sa cinquième JMJ, si je ne m'abuse.
Hein. Et vous, combien de JMJ vous avez fait?
Alors, moi j'ai fait toutes les JMJ depuis que je suis évêque, donc depuis 2011, et j'avais fait auparavant 4 JMJ avec des jeunes, comme aumônier de lycée.
On pensait que cette formule des JMJ, elle était un peu dépassée, qu'il fallait inventer autre chose, mais finalement, 1,5 million de jeunes à Lisbonne,
oui.
C'est quand même une belle réussite pour l'Église, malgré tout ce qu'on entend sur l'Église aujourd'hui.
Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes des jeunes et beaucoup de disponibilité d'ouverture à l'Église, hein, pour rencontrer le Christ, vraiment à l'Église. Alors moi, je l'ai senti aussi à travers tous ces jeunes très diversifiés, hein, que nous avons emmenés de notre diocèse, à peu près 350. La première semaine, on était un petit peu moins nombreux, 240. Mais j'ai vu le bon esprit, la vraie disponibilité de ces jeunes à tout ce qui leur a été proposé. Et je dois dire que j'étais fier aussi de voir tous ces prêtres et ces adultes qui les encadraient, parce que ces jeunes prêtres, hein, qui étaient nombreux, hein, on était à un moment jusqu'à 15 prêtres, puisqu'il y avait aussi l'abbé Nouvelle et l'abbé Victor Gomez, c'est grâce à lui que nous étions dans le diocèse de Viseu, puisque c'est le diocèse natal de ses parents et de sa famille, Et donc, nous avons, j'ai vu ces jeunes prêtres vraiment au milieu des jeunes, sentant l'odeur de leurs brebis, vivant les conditions spartiates dans lesquelles les JMJ se déroulent habituellement, et très à l'écoute, très proches. Ils ont beaucoup confessé, ils ont fait des petites catéchèses, et je pense que les jeunes leur ont bien montré, manifesté, en particulier l'abbé Merkens qui va nous quitter, mais qui a mené ça de main de maître, avec beaucoup d'humour, beaucoup de fermeté, puis beaucoup d'écoute des animateurs. Tous les jours, il organisait une réunion avec les animateurs, écoutant bien ce qu'ils disaient, les remontées, qu'est-ce qu'il fallait faire. Enfin bon, j'étais personnellement, moi, très fier. De toute cette organisation et de toute cette animation de ce groupe de jeunes qui était vraiment, vraiment au top. Hein. Et je pense que, comme cela est exprimé dans la presse en ce jour, ils reviennent vraiment transformés. Et je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'engagements qui seront pris de manière très, très, très pratique hein, pour la passerelle des jeunes entre diocèses.
Donc vous dites à tous ceux qui ont organisé ces JMJ dans notre diocèse, obrigado, merci.
Muito obrigado, merci beaucoup.
Que ce soit les prêtres et les fidèles laïcs qui se sont mobilisés, ils sont nombreux, donc vous les remerciez. Et puis à la suite, donc il y aura l'année sainte à Rome en 2025, et puis c'est JMJ annoncé...
En Corée, à Séoul en 2027, voilà, donc avec une étape lors de l'année sainte, un rassemblement des jeunes autour du pape. Donc à Rome, voilà, donc ce sont des belles perspectives, mais immédiatement, ce sera la remise en route de notre passerelle des jeunes à partir de la rentrée prochaine, avec des rassemblements plus modestes, plus diocésains, mais je pense que ça va susciter un vrai dynamisme.
Vous avez envoyé un petit message aux jeunes en leur disant de garder de l'huile dans leur lampe.
Oui, parce qu'hier c'était l'évangile des vierges sages et des vierges folles, en la fête pour l'Europe, de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Que nous avons célébré hier.
Donc c'est le message qu'on peut
garder pour l'instant. Soyez vigilants, gardez l'huile de vos lampes bien, bien présente, et puis avancez comme disciples missionnaires.
Un grand merci à vous, Mgr Haillé, pour ce premier retour des Journées mondiales de la jeunesse au Portugal, à Lisbonne. Et je signale à ceux qui nous écoutent que vous pouvez revivre toutes ces JMJ sur le site internet du diocèse avec les photos, les vidéos, les reportages www.diocèse64.org. Merci, Mgr Haillé.
Merci beaucoup.
Et bonne fête de l'Assomption.